France Culture.
La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, d'où vient que le monde quantique semble fou ? Au cours des années 1920, la physique quantique s'est rapidement mise sur pied dans une sorte d'urgence fiévreuse. Il fallait rendre compte du comportement qui se révélait très bizarre des atomes et des particules. Des concepts tout nouveaux furent alors inventés qui conduisirent les physiciens à penser autrement la matière et ses interactions. Mais pour devenir opératoire, c'est-à-dire correctement utilisable, l'édifice théorique ainsi construit exigeait aussi un travail d'interprétation. Comment les équations qui constituent cet édifice se relient-elles aux expériences ? Quel statut conféré au hasard qui semble intervenir dans la détermination des résultats des mesures faites sur des objets quantiques ? Quel type de discours sur la réalité cette nouvelle physique autorise-t-elle ? Les physiciens eurent les pires difficultés à répondre à ces questions qui étaient à la fois inédites et vertigineuses. Un siècle plus tard, y voyons-nous plus clair ? La physique quantique est-elle devenue plus facile à comprendre ? Est-il aujourd'hui possible de la vulgariser mieux que par le passé ? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Hippolyte Dourdan. Bonjour.
Bonjour, Étienne.
Vous êtes chercheur à l'Institut des sciences photoniques de Barcelone. Vous êtes en post-doc, comme on dit.
Oui.
Et vous venez de publier un livre passionnant chez Duno qui s'intitule « De l'autre côté du miroir quantique ». Vous êtes tout jeune. Et ma première question consiste à vous demander si vous vous souvenez de la première fois où vous avez entendu parler du mot quantique.
Alors, je crois que c'était en classe de seconde. Et ça venait d'un camarade de classe qui faisait des blagues. On était en cours de physique. Et à un moment, il s'est mis à raconter des âneries, on va dire. Et il avait dû lire un magazine de vulgarisation ou peut-être écouter une émission de radio. Et il faisait rire la classe en parlant de physique quantique, comme quoi c'est quelque chose d'extrêmement étrange. J'avais jamais entendu parler de quantique avant cela. Et ça m'a tout de suite interpellé. Je me dis, de quoi il parle ? C'est très bizarre.
Vous parlez d'une émission de radio, mais pas de France Culture.
Ah, peut-être, je ne sais pas. Faudrait lui demander.
Est-ce que vous qui travaillez à l'Institut des sciences photoniques, vous êtes capable de vous faire une image claire de ce qu'on appelle un photon ? Ou est-ce que vous le voyez comme un jeu d'équations ?
Plutôt la deuxième option. J'ai pas d'image claire. Je pense qu'on va en discuter au cours de cette émission. C'est un vrai challenge d'essayer de construire des images qui nous parlent autour des objets quantiques. Mais on va dire que oui, pour faire au plus simple, ma façon de me représenter un photon, c'est un outil théorique qui me permet de décrire les expériences quantiques qu'on fait en laboratoire.
Mais c'est quand même bizarre de qualifier d'outil un objet naturel.
Mais est-ce que c'est un objet naturel ? C'est telle est la question.
On va en reparler. Dans votre livre, c'est ce que j'ai trouvé original en particulier, il y a des dessins.
Oui.
Or, on dit souvent que la mécanique quantique est iconoclaste, au sens où dès qu'on montre l'image d'un objet quantique, il y a toujours un argument quantique qui vient dire que ce dessin est faux. Alors pourquoi ces images ? C'est pour que votre propos soit rendu compréhensible par des choses plus sensibles ?
Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a certaines images qui appartiennent à notre histoire artistique ou l'histoire de nos idées, qui vont en fait avoir une structure logique qui ressemble étrangement à la structure de certains problèmes en théorie quantique. Et il y a un autre usage des représentations picturales autour de la théorie quantique. Dans les développements des fondements modernes, en fait, il y a tout un pan de la théorie quantique qui consiste à tout simplement faire des dessins. En fait, on peut dessiner et c'est une nouvelle façon de faire des maths autour de la théorie quantique.
En fait, vous ne dessinez pas les objets, vous dessinez plutôt ce que la physique quantique nous oblige à envisager.
Tout
comme
à fait.
Schéma logique, par exemple.
Voilà, en fait, on va faire des schémas de logique, donc avec des boîtes, des flèches, des dessins. On va créer des petits circuits, des dessins de circuits. Mais en fait, en respectant certaines règles de dessin, on va pouvoir faire des calculs avec des dessins, tout simplement.
Hippolyte Dourdan, vous montrez un dessin qui représente un ordinateur quantique, on va en reparler. Mm-hmm. Il ressemble bêtement à un vulgaire frigidaire. Comment vous expliquez ça? C'est pas l'image qu'on s'en fait?
Non, oui, au tout début du livre, je fais une petite blague parce qu'en fait, on a une représentation qui va être diffusée de plus en plus, je pense, dans la culture populaire, de cet ordinateur quantique comme un magnifique chandelier d'or qui paraît presque issu d'une technologie extraterrestre. On peut le voir d'ailleurs dans certaines séries de science-fiction. Il est déjà présent et présenté comme une espèce de voilà de technologie très mystérieuse. Et en fait, ce très bizarre chandelier d'or, en fait, c'est un frigidaire, c'est un cryostat. Et l'ordinateur quantique, c'est une petite puce qu'on voit pas vraiment, qui est tout au bout de ce cylindre, de ce chandelier, et qui n'est pas très impressionnante. Hein. C'est une petite puce.
Ce qu'on voit, c'est son environnement, c'est pas l'ordinateur.
Tout à fait.
Lui-même.
En fait, on voit tout le système. Alors, on peut en venir sur ce point-là, c'est que pour rendre le monde quantique, pour rendre les choses quantiques, on a besoin d'isoler. On a besoin d'isoler ces systèmes pour pouvoir les manipuler, pour pouvoir les étudier et pour pouvoir utiliser leur étrangeté. Et pour isoler un système, on a besoin en fait de le refroidir de façon très très froide, donc très très proche du zéro absolu, donc moins 273,15 degrés Celsius. Et donc tout ce cylindre, tout ce chandelier est là pour faire refroidir en fait les atomes ou les particules qu'on va utiliser dans notre puce pour pouvoir faire du calcul quantique.
Vous avez parlé à l'instant, Hippolyte Dourdan, de technologie mystérieuse.
Oui.
Est-ce que c'est pas un pléonasme? Autrement dit, est-ce qu'on ne peut pas dire que la technologie, plus elle devient complexe, plus elle devient conviviale, de sorte qu'on n'a pas besoin de savoir comment elle marche pour la faire fonctionner? On est très peu à savoir comment marche un téléphone portable,
ouais,
qui d'ailleurs est vendu sans notice,
mm-hmm,
et on n'est pas du tout gêné dans l'usage que nous en faisons.
Alors, c'est tout à fait le cas, mais il y a une contrepartie à cette phrase-là, il y a la fameuse phrase d'Arthur C. Clarke, cet auteur de science-fiction, qui dit que toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Il y a aussi, il me semble, le philosophe Bruno Latour qui a développé le concept d'opacification, en anglais blackboxing, qui va dans la même lignée, qui dit que plus la science et la technologie se développent et réussissent, plus elles deviennent opaques et obscures.
Oui, je le cite, le travail scientifique devient invisible du fait de sa propre efficacité.
Tout à fait. Et comme vous le dites, en fait, est-ce que c'est un problème? Bah, pas forcément, parce qu'on le vit plutôt bien, en fait. Je pense que la plupart d'entre nous, même moi, si vous me demandez maintenant, là, à l'instant T, de vous décrire comment mon téléphone portable marche, je vais un petit peu piétiner. Je vais peut-être aller chercher sur Wikipédia ou sur Internet pour pouvoir vous donner une réponse. Mais je vais comprendre, si je sais comment accéder à l'information, comment accéder à cette connaissance, je vais pouvoir la comprendre et vous la communiquer. Le souci avec la physique quantique, c'est que on va pas seulement développer des boîtes noires technologiques, donc des technologies dont on n'a pas besoin de comprendre le fonctionnement. C'est que, en fait, dans la façon qu'ont les gens de se concevoir la théorie quantique, c'est déjà une boîte noire scientifique. Et même pour les scientifiques. Il y a la fameuse phrase de Feynman, que je n'aime pas du tout.
Oui, vous la critiquez abondamment.
Oui.
Répétez-la.
Personne ne comprend la mécanique quantique. Et voilà, il y a en fait ce parti pris, ce présupposé qui dit que c'est quelque chose d'inaccessible, non seulement pour les non-initiés, mais même les initiés ont un problème avec cette théorie. Et là, je pense qu'il y a quelque chose qui se joue de très important, qui est même peut-être important pour le débat public. C'est que si on va mettre en place et on va développer et utiliser des technologies qui, apparemment, a priori, ne seraient pas compréhensibles et complètement opaques et ténébreuses, ça va être potentiellement la porte ouverte à beaucoup de dérives, peut-être de conspirations, de contre-vérités, de pseudo-scientifisme. Et ça m'embête un petit peu. Et un des buts principaux du livre, c'était d'essayer d'ouvrir la boîte noire et d'expliquer un petit peu, avec des thèmes clairs, mais suffisamment rigoureux et pédagogiques, qu'est-ce qui peut se passer à l'intérieur de cette boîte noire quantique.
Hippolyte Dourdan, moi j'ai eu un prof de mécanique quantique qui nous disait pour faire de la physique quantique, il suffit de savoir additionner, faire des additions. Ouais. En termes plus modernes, on dirait, il suffit de maîtriser les bases de l'algèbre linéaire.
Tout à fait.
Vous êtes d'accord avec ça ?
Je suis parfaitement d'accord avec ça. Et d'ailleurs, quand je vous parlais des dessins qui nous permettent de faire des calculs, en fait, ces dessins, c'est une représentation graphique de ce que vous appelez l'algèbre linéaire. Donc, on peut en fait simplifier même l'algèbre linéaire, qui ne sont pas des maths si difficiles pour les scientifiques.
Mais il nous disait que le principe fondamental de la physique quantique, c'est le principe dit de superposition,
oui.
Qui dit que si un objet quantique, une particule par exemple, peut être dans l'état A ou bien dans l'état B, elle peut être dans l'état A plus B.
Oui.
Donc on ajoute les états et ça fait un nouvel état.
Oui. Alors c'est un principe qui est essentiel, mais qui ne va pas être le principe le plus étrange de la théorie quantique. Qu'est-ce que j'entends par là ? Donc, ce que vous expliquez, la superposition d'états, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que c'est ce qui va fondamentalement nous permettre de faire du calcul quantique sur ce qu'on appelle des quantum bits. Donc, en logique, des qubits. Donc, en logique classique, on fonctionne avec des bits, des zéros ou des 1. En calcul quantique, on va fonctionner avec des qubits. Donc, on va avoir l'analogue du 0, l'analogue du 1, mais on va aussi pouvoir additionner. C'est 0 et 1. Et 0 plus 1, ça ne va pas faire 1. En fait, ce qu'on additionne, ce n'est pas des nombres. Ce qu'on additionne, c'est des espèces de phrases, en fait. C'est des phrases quantiques. On va changer notre logique. Et dans la logique de la quantique, on a droit d'additionner des phrases. Et c'est ça qui va nous permettre, plus tard, d'avoir des avantages. Et c'est ça qui va permettre d'observer des choses étranges. Pourquoi ce n'est pas la chose la plus étrange ? Parce qu'il y a cet a priori qui a été beaucoup diffusé du coup, au moment où la théorie quantique a été développée au XXe siècle, qui est de dire que voilà, ce principe-là de superposition, c'est ce qui est le principe le plus fondamental, le plus étrange de la théorie quantique. Ce n'est pas le plus étrange parce qu'on peut en fait, je le décris dans le livre, on peut en avoir une compréhension, une certaine intuition avec une logique presque classique. Donc, ça ne va pas être juste notre logique classique, mais on va contraindre un petit peu notre logique classique et on va pouvoir, en fait, représenter de façon qualitative ce phénomène. Quel est le principe ? Donc, c'est un travail qui a été développé par le physicien Robert Spekens, qui est un chercheur à l'Institut Perimeter au Canada. Et Robert Spekens, au début du XXIe siècle, il a développé ce qu'on appelle un modèle joué. Un modèle joué, qu'est-ce que c'est ? C'est une théorie simplifiée. En fait, il n'a pas essayé de reproduire toute la théorie quantique, mais il a décidé de s'intéresser à quelques particularités, dont la superposition. Et il a essayé, avec une théorie simplifiée, de voir s'il ne pouvait pas reproduire le phénomène de superposition. Et il y est arrivé. C'est ça qui est incroyable. Comment il y est arrivé ? En fait, il va prendre une théorie de probabilité classique et il va supposer qu'on va avoir un équilibre entre ce que l'on peut connaître et ce que l'on ignore d'un système. Un équilibre parfait. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand vous allez poser une question à votre système, vous allez toujours obtenir une réponse, mais il va toujours avoir une part de la réalité du système qui vous restera cachée. Si vous posez la question qui correspond à la réalité cachée, vous allez de nouveau avoir une réponse, mais par contre, vous allez perdre l'information que vous aviez avant. Et donc, il y a un espèce d'équilibre comme ça, où au mieux, je sais que je sais autant que je ne sais pas. Et oui. À partir de ce principe fondamental sur une limite de la connaissance, eh bien en fait, on arrive à reproduire le phénomène de superposition.
Donc si je vous comprends bien, Hippolyte Dourdan, ça veut dire que le principe de superposition qu'on a parfois présenté comme fondamental,
oui.
Comme la base même de la physique quantique, peut lui-même être reconstruit à partir de principes plus fondamentaux.
Tout à fait. Il peut être construit à partir de principes plus fondamentaux. Et ce qui est important aussi, c'est que du coup, il n'est pas exclusif à la théorie quantique. Donc c'est pour ça que ça me gêne un petit peu de dire que c'est le phénomène fondamental de la physique quantique. Non, parce qu'en fait, il ne va pas la caractériser elle seule. C'est quelque chose qui est important, qui est nécessaire et qui fait partie de la physique quantique. Mais ça ne va pas être le cœur de son étrangeté. Le cœur de son étrangeté, on va sans doute en parler plus tard, réside dans d'autres phénomènes qui ne sont pas reproductibles par le modèle joué, donc cette théorie simplifiée de Robert Spekens.
Alors quand on va aller vite, Hippolyte Dourdan, on dit la physique quantique, ça concerne le monde dit de l'infiniment petit.
Oui.
La physique classique, celle qu'on apprend au lycée, concerne le monde, disons, macroscopique. Est-ce que c'est justifié ? Est-ce que la séparation entre le monde classique et le monde quantique se situe bien dans une question de taille d'objet ?
Pas forcément. Moi, j'ai aussi un problème avec ça. J'ai beaucoup de problèmes avec beaucoup d'idées qui sont diffusées autour de la physique quantique. Donc, c'est pas faux, hein, de dire que la théorie quantique, de prime abord, elle va décrire le monde, entre guillemets, de l'infiniment petit. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est que c'est la théorie, la meilleure théorie qu'on a pour décrire la matière, la lumière, leur interaction. Maintenant, une fois que ça c'est dit, on va regarder, si on regarde la théorie quantique, donc l'algèbre linéaire dont vous parliez, donc c'est ce qu'elle représente. Qu'est-ce que c'est que la théorie quantique? Avant d'être ça, ce sont des postulats mathématiques qu'on va manipuler et qui vont nous permettre de modéliser les expériences qu'on fait en laboratoire. Si on regarde ces règles mathématiques, il y en a 5. À partir de ces règles-là, il n'y a rien qui nous dit qu'il y a une frontière entre cet infiniment petit et ce monde macroscopique, ou autrement dit, on ne sait pas, il n'y a pas de critère d'applicabilité de la théorie qui est donné par la théorie elle-même.
Elle est censée être universelle.
Elle est censée
être universelle. Et pourtant, à notre échelle, on ne voit pas directement de phénomène quantique.
Voilà. Il y a un moyen pragmatique d'expliquer cela, et c'est ce dont on parlait tout à l'heure avec l'ordinateur quantique, c'est que pour pouvoir observer des phénomènes quantiques, il faut de l'isolation. Ce n'est pas forcément une question de taille, hein. C'est une question d'isolation. Il faut manipuler des objets individuels, ou pas forcément individuels, mais des objets, des paires, peut-être un petit peu plus. Mais il faut vraiment isoler les objets les uns des autres pour éviter en fait qu'ils interagissent avec leur environnement.
Donc il faut les isoler de leur environnement.
Tout à fait.
Et qu'est-ce que vous appelez leur environnement ?
Leur environnement, ça va être toutes les autres particules qui ne nous intéressent pas. Mais ça peut être n'importe quelle particule. Donc par exemple, pour pouvoir observer des phénomènes quantiques, il faut qu'il fasse tout noir, il faut qu'il fasse très très froid, pour faire en sorte qu'on puisse manipuler les objets qui nous intéressent. Mais si par exemple vous avez un objet quantique que vous étudiez et par inadvertance il ne fait pas assez noir et il y a un photon qui va interagir avec, le photon va agir comme un environnement et va casser ce que vous avez envie de faire.
Donc les particules alentour agissent comme l'environnement de la particule qu'on veut étudier.
Tout à fait. Et donc ça, c'est un des grands, grands problèmes, c'est ce qu'on va appeler le phénomène de décohérence, c'est un des gros casse-têtes de toutes les personnes qui essayent de construire l'ordinateur quantique actuel. Mais pour revenir à cette histoire de taille, il y a des théories alternatives à la physique quantique qui partent de ce principe et de ce critère-là. C'est ce qu'on appelle les théories à effondrement spontané, c'est un petit mot compliqué, pour dire que c'est des versions différentes, donc alternées de la théorie quantique, pour lesquelles on va modifier les équations pour faire en sorte qu'un objet quantique macroscopique n'existe pas. Et ce qui est très super intéressant, c'est que, comme c'est des théories alternatives, elles vont faire des prédictions différentes de la théorie quantique. Et donc ces théories alternatives, elles sont testables, elles sont vérifiables, falsifiables. Et le petit souci qu'on a, c'est qu'en fait, il y en a beaucoup qui ont déjà été falsifiées. Et donc, dans la communauté des fondements quantiques, ce type de théorie alternative, qui disent qu'il y a une frontière entre le microscopique et le macroscopique, eh bien, elles sont de moins en moins en vogue, on va dire.
Alors vous parlez, Hippolyte Dourdan, de la communauté des fondements quantiques. À laquelle vous appartenez ?
Oui.
C'est quoi ? C'est des gens qui essaient de comprendre comment on peut comprendre la physique quantique à partir de principes beaucoup plus fondamentaux que ceux qu'on a l'habitude d'enseigner.
Tout à fait, oui. Donc c'est ma discipline de recherche, les fondements quantiques, qui est une petite discipline, mais on est de plus en plus à l'étudier, et qui est très proche de ce qui s'appelle l'information quantique. Et le but du jeu de ma discipline, c'est d'essayer de mieux comprendre l'étrangeté de la physique quantique. C'est à plusieurs objectifs. On va dire qu'il y en a deux principaux. Le premier, c'est on se dit, mieux on comprendra l'étrangeté. D'où vient cette étrangeté? D'où viennent ces phénomènes bizarres?
Moins elle sera étrange.
Waouh, oui, c'est logique. Mais surtout, mieux on réussira à l'utiliser derrière, à utiliser cette étrangeté. Et il y a aussi un autre but qui est de se dire que la théorie quantique, ce n'est pas la fin de la physique. Il y a sans doute quelque chose derrière, parce que comme vous le savez, il y a un petit souci de conciliation avec cette fameuse théorie de la relativité d'Albert Einstein. Et donc on se dit que mieux on comprendra la théorie quantique elle-même, donc la théorie quantique standard, peut-être mieux on arrivera à essayer de la réconcilier
vous
avec...
Vous parlez de la relativité générale, la théorie de la gravitation, mais il n'y a pas de problème avec la relativité restreinte.
Non, il n'y a pas de problème avec la théorie de la gravitation.
Alors quand on parle de physique quantique, au bout de 10 minutes ou moins, parfois, on entend parler du chat de Schrödinger,
oui.
Dont on dit... Et ça vous agace comme ça m'agace, qu'il est à la fois mort et vivant, ce qui ne veut pas dire grand-chose.
Ça ne veut rien dire du tout.
Mais vous qui travaillez sur les fondements quantiques, est-ce que vous savez dire ce que ça vous ferait d'être un chat de Schrödinger ?
Alors,
vous étiez dans cet état-là, qu'est-ce que vous sentiriez ?
Alors, il y a plein de réponses possibles à cette question.
J'en veux aux trois, disons.
Je peux vous en donner trois différentes. Pourquoi il y a plein de réponses possibles ? C'est encore une fois, c'est parce que la théorie quantique, c'est ces cinq règles mathématiques qui sont parfaites, hein, qui sont une recette formidable et qui s'appliquent parfaitement bien et qui nous permettent de faire des prédictions super précises, auxquelles on croit très fortement. Le problème, c'est qu'en fait, quand on essaye de les traduire dans notre langage ou d'extraire un discours sur la nature de la réalité... Là, c'est pas qu'on n'a pas de réponse, c'est qu'il y a différents types de réponses qui s'opposent. Et pour l'instant, on n'a pas trouvé de consensus. On n'a pas trouvé.
Mais c'est une affaire d'interprétation des physiciens, ou est-ce que ces interprétations différentes conduiraient, si elles étaient vraies pour certaines, fausses pour d'autres, à des prédictions différentes ?
Alors, c'est très intéressant. On part souvent de ces interprétations comme des interprétations. Mais qu'est-ce qu'on entend par interprétation ? En fait, derrière ce mot, il se cache plein de choses. Il se cache des véritables interprétations philosophiques qui vont garder les mathématiques et juste essayer d'extraire un discours. Mais il y a aussi, comme je le présentais, c'est des théories alternatives qui vont essayer de modifier les équations pour pouvoir s'arranger, on va dire, avec éviter des phénomènes qu'on n'observe pas. Il va y avoir aussi d'autres théories alternatives qui, elles, vont considérer que la théorie quantique, ce n'est pas encore une théorie physique. C'est une proto-théorie physique. Et on va essayer, par exemple, de la compléter. Ou encore de l'interpréter sous un angle différent et de dire que ça ne va pas être une théorie des objets physiques tels que la lumière ou la matière, mais ça va être plutôt une théorie de l'information. Pour revenir au chat Schrödinger, donc, on va rappeler peut-être l'expérience. L'expérience du chat Schrödinger, qu'est-ce que c'est ? Donc, on prend une boîte. À l'intérieur de cette boîte, on met un chat. Et un dispositif un peu pernicieux qui, s'il se déclenche...
Un chat vivant au départ, si je puis me permettre de préciser.
Tout à fait, c'est très important. On met un chat vivant dans une boîte avec un dispositif pernicieux qui, si le dispositif est enclenché, un poison est libéré dans la boîte, le chat est mort. Donc la boîte est complètement scellée. Hein. Le but du jeu, c'est qu'on ne va pas regarder ce qui se passe à l'intérieur. En plus de cela, donc, comment ce dispositif peut être enclenché ? Une façon un peu abstraite, mais très correcte de le présenter, c'est de dire qu'il y a ce fameux qubit dont on parlait au début d'émission, qui est dans la boîte avec le dispositif et avec le chat. Si notre état quantique est dans l'état zéro, rien ne se passe. Donc le dispositif n'est pas déclenché, le chat reste vivant. Si notre qubit est dans un état 1, le dispositif est enclenché, le poison est libéré dans la boîte, le chat est mort. Sauf que, comme on le disait, on peut faire des additions de phrases. On peut faire des additions d'états logiques en physique quantique. Et donc, si notre qubit est dans un état superposé, eh bien, notre chat va être contaminé par cet état quantique. Et donc, nous qui sommes à l'extérieur de la boîte, on va décrire le couple de notre qubit et du chat de façon quantique. Et ça va être, alors c'est ce qu'on appelle un état intriqué.
Mais il n'est pas vivant et mort à la fois, il est vivant plus mort.
Et c'est même pas ça. Il n'est pas vivant plus mort. Alors, la phrase correcte, c'est « Ma particule est dans l'état 0 et mon chat est vivant, plus ma particule est dans l'état 1 et le chat est mort. » C'est très important, parce que dire qu'il est juste vivant plus mort, ça revient juste à parler de superposition. Sauf que l'expérience du chat Schrödinger, ce n'est pas simplement la superposition. C'est vraiment ce couplage entre un état quantique et un état du chat, et comme on le disait, rien dans la théorie, a priori, ne nous interdit de décrire le chat avec des phrases quantiques, et de là vient tout le problème. Et c'est ce que Schrödinger n'avait pas d'ailleurs. Il disait, mais rien dans la théorie ne nous donne d'applicabilité de la théorie, donc on a le droit de l'appliquer à un chat, et regardez qu'est-ce que ça fait quand on l'applique à un chat. On se retrouve avec un objet macroscopique qui est intriqué avec un objet microscopique, et donc il y a quelque chose de super bizarre qui se passe. Et donc, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cette boîte ? Qu'est-ce qui se passe si on est avec le chat ? Bon, pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe, disons qu'on ne va pas déclencher un poison, on va juste peut-être dire qu'à la place du chat, il y a un ami à vous qui va observer le qubit. Et donc, au lieu d'avoir 0 et le chat vivant plus 1 et le chat est mort, on va avoir 0 et votre ami observe l'état 0, plus 1 et votre ami observe l'état
1. Oui, on respecte les animaux.
Voilà. Mais du coup, qu'est-ce qui arrive à votre ami ? Eh bien, en fonction de l'interprétation, ou alors je préfère, c'est un mot un peu technique, mais moi je préfère parler de métamodèle quantique, parce que c'est quelque chose qu'on veut ajouter, c'est quelque chose d'un petit peu méta, on veut aller au-delà de la physique quantique, c'est de l'interpréter ou de
voilà,
la compléter.
On va au-delà des équations en essayant d'imaginer ce qu'elle dirait si elle pouvait parler.
Tout à fait. En fonction de l'interprétation qu'on choisit, on va avoir différents discours. Par exemple, si vous êtes évrécien, évrécien c'est la théorie d'Everett, c'est les mondes multiples. Qu'est-ce qu'un évrécien dirait ?
Everett, c'était un physicien qui a proposé une interprétation de la physique quantique.
Tout à fait.
En disant qu'à chaque fois qu'une mesure est faite, toutes les possibilités se manifestent dans des univers parallèles.
Tout à fait. Et donc, si vous êtes adepte de cette interprétation des mondes multiples, eh bien en fait, il ne va rien se passer pour notre ami à l'intérieur de la boîte, mais il va y avoir deux copies différentes de notre ami. Il y aura une copie différente qui observera 0.
Il va être cloné.
Une copie qui observera 1. C'est pas vraiment du clonage. Parce que le clonage est...
Alors, il est interdit en physique quantique. Voilà. Non, il y a une duplication, disons.
Tout à fait. Mais qui est déjà là, en fait. Il y a un déjà là. La théorie d'Everett, c'est qu'il y a un seul objet fondamental, c'est l'état quantique de l'univers. Et ensuite, tous les objets à l'intérieur vont suivre des branches distinctes de ce gros objet qui est l'état quantique de l'univers. Mais ces branches, ces mondes, ne sont pas des objets fondamentaux. C'est quelque chose qui va dériver de notre expérience du fait que, en fait, on observe à chaque fois qu'un résultat possible. Donc ça, c'est une possibilité. Mais il y en a plein d'autres. C'est pour ça que c'est aussi assez agaçant quand on résume cette expérience à l'idée des mondes parallèles, parce qu'il y a d'autres options. Il y a l'option, par exemple, donc ce que je disais tout à l'heure, il y a des théories alternatives qui vont modifier les équations et qui vont dire, en fait, à l'intérieur de la boîte, de toute façon, le chat, il ne peut pas se corréler à la particule. Donc, il n'y aura pas de paradoxe derrière, en fait. Cette espèce d'état étrange, ce flou d'existence que le chat vivrait, n'aura pas lieu, quoi qu'il arrive, du fait des équations.
Ça veut dire qu'on ne peut jamais voir le chat directement dans l'état superposé.
Tout à fait. Voilà. Et il y a aussi d'autres solutions qui vont, en fait, compléter la théorie quantique pour faire exactement la même chose. Éviter cette espèce de flou existentiel. Et donc, in fine, en fait, il n'y aura rien de bizarre à être un chat Schrödinger. On va le vivre, et il y aura même certaines interprétations qui diront qu'à chaque fois que vous faites une expérience de physique quantique, vous êtes, en quelque sorte, intriqué avec la particule que vous mesurez. Et donc il n'y a pas forcément à s'inquiéter, on va dire.
Je n'ai pas spécialement inquiet, mais ce que vous dites me fait penser à Hamlet, être ou ne pas être. Telle est la question, mais je vais plutôt dire être ou ne pas être. Voilà la question, parce que l'anagramme de cette phrase, je ne sais pas si vous la connaissez,
non.
C'est oui, et la posée n'est que vanité orale.
Oh, c'est joli.
Ça doit vous plaire, ça.
Oh oui, c'est très joli.
C'est la question du langage. On est à la radio, là. Les seuls outils que nous ayons à notre disposition, c'est le langage et vos mains qui sont très mobiles, mais qu'on ne voit pas à la radio.
J'aime bien parler.
Est-ce que vous pensez qu'on pourra dire simplement avec des phrases un peu comme vous le faites dans le livre, la physique quantique. Ou est-ce qu'à un moment ou un autre, il faut en passer par le formalisme mathématique ?
C'est une excellente question. À l'heure d'aujourd'hui, je dirais qu'on a besoin des maths. Pour être parfaitement rigoureux, on peut simplifier, vulgariser, faire de la médiation scientifique. Mais si on veut être extrêmement précis, à l'heure d'aujourd'hui, je dirais qu'on a encore besoin des mathématiques. Maintenant, de quelles mathématiques ? Par exemple, comme je le disais, il y a aujourd'hui des outils qui nous permettent de faire des mathématiques avec des dessins. Et donc, si on a des représentations graphiques relativement simples, on va améliorer notre façon d'appréhender et d'expliquer la physique quantique. Mais quand je parle là à la radio, je ne peux pas vous faire de dessins. Du coup, voilà, ça reste un petit peu compliqué. Cependant, donc, dans cette discipline, dans ma discipline de recherche qui est les fondements quantiques, c'est une question qu'on se pose et c'est aussi un de nos objectifs. Et il y a par exemple tout ce pan qui est ce pan de réflexion et ce sujet de recherche qui consiste non pas à essayer d'interpréter les règles mathématiques, mais essayer plutôt de les reformuler via des principes simples. Donc simples avec des guillemets, parce qu'il faudra sans doute une certaine formation scientifique pour pouvoir les appréhender. Mais en fait, il y a plusieurs chercheurs qui font le parallèle avec l'état presque, je dirais même, le proto-état de ce qu'était l'ancêtre de la théorie de la relativité au début du XXe siècle. Donc il y avait, vous connaissez mieux que moi, donc corrigez-moi si je me trompe, mais il y avait les fameuses théories de Lorentz à la fin du XIXe. Et ces théories de Lorentz, donc c'est les équations qui vont permettre, qui vont donner naissance plus tard à la théorie de la relativité. Et ces équations, en fait, donc on avait les équations mathématiques, mais on ne savait pas comment les interpréter. Et ce qu'a fait Einstein, ce qui est vraiment révolutionnaire, donc ce qu'a fait Einstein, c'est qu'il a reformulé ses axiomes avec des principes extrêmement simples.
Il n'a pas touché les équations, il a changé la façon de les comprendre.
Tout à fait. Et il y a plusieurs scientifiques, donc plusieurs chercheurs dans le domaine des fondements quantiques, qui pensent que l'état de la théorie quantique actuelle, il est dans ce proto-état de théorie physique, en fait.
Mais ça veut dire que si votre recherche aboutissait, c'est-à-dire si on pouvait identifier ce que vous appelez les fondements de la physique quantique d'une façon radicalement nouvelle,
oui,
ça changerait sans doute la façon de l'enseigner.
Tout à fait.
Et aussi peut-être de la vulgariser.
Tout à fait. Et d'ailleurs, en fait, donc je dis que des scientifiques y réfléchissent, mais y ont réfléchi, parce qu'il y a déjà des résultats en fait qui ont été publiés. Les formulations qu'on a sont pas entièrement satisfaisantes, mais on a pu dégager certains principes. Donc, ce qui est important de savoir aussi, c'est que ces principes-là s'inscrivent dans le cadre de la théorie de l'information. On cherche des principes qui sont liés à l'information. On va se dire, la théorie quantique va pas seulement décrire la lumière et la matière, ce qui est du coup plutôt ce qu'on va appeler la physique atomique ou l'optique quantique. La théorie quantique, avant toute chose, c'est une nouvelle théorie de l'information. Une nouvelle théorie qui va nous permettre de décrire les communications de façon très abstraite.
Et que devient le réel derrière tout ça? Est-ce qu'il disparaît? Est-ce qu'il est voilé? Est-ce qu'il est...
Alors, c'est une question philosophique passionnante qui a également plusieurs réponses.
On y viendra peut-être plus tard.
Oui, ok.
Mais je voulais vous interroger sur une phrase de Paul Valéry que vous mettez en exergue. Oui. De l'un de vos chapitres de ce livre qui s'intitule « De l'autre côté du miroir quantique ». Cette phrase de Paul Valéry qui est dans « Tel quel, si ma mémoire est bonne », est la suivante « Le réel ne peut s'expliquer que par l'absurde ». Comment est-ce que vous comprenez cette phrase? Pourquoi vous l'avez choisie? Et est-ce qu'elle fait écho à cette phrase de Alexandre Coiré qui disait « Le pari de la physique moderne est qu'on peut expliquer le réel par l'impossible ». C'est-à-dire par des principes ou par des lois qui semblent contredire les phénomènes qu'elles expliquent.
Alors, ouais, je ne connaissais pas, la seconde phrase est très jolie aussi. Alors, pourquoi j'ai choisi cette phrase? D'abord par esthétisme, parce que je la trouve magnifique, je la trouve très très belle. Et ensuite, parce que... donc, elle est en en-tête d'un chapitre sur ce qui s'appelle la contextualité, on va peut-être en parler. Pourquoi je l'ai choisi? Parce que in fine, qu'est-ce qu'il y a d'étrange dans cette théorie quantique? C'est que la logique de la théorie ne peut pas être comprise avec notre logique classique. Et donc, si on part de cette phrase-là, si on considère qu'il y a des phénomènes qui sont inatteignables par notre logique et donc notre langage classique, on pourrait dire qu'il y a quelque chose d'absurde. Et de là vient l'étrangeté.
Mais c'est ça qui nous fait dire que la physique quantique décrit un monde fou?
Oui.
C'est que sa logique n'est pas la logique habituelle.
Tout à fait. Mais c'est pas parce qu'il y a des mondes parallèles ou des chats morts et vivants ou ce genre de choses-là. C'est fondamentalement quelque chose de mathématique, en fait, de logique. La logique quantique ne peut pas être comprise avec notre logique classique. Maintenant, une fois que cela est dit, eh bien, il y a plusieurs options, encore une fois, qui s'offrent à nous. On peut décider de reconnaître cette trahison du langage, et de se dire, on va quand même continuer de parler de façon classique et être très sceptique par rapport et agnostique par rapport à l'usage qu'on fait de nos images. C'est cette fameuse dualité onde-corpuscule. La dualité onde-corpuscule, ce n'est pas que l'objet est à la fois une onde et un corpuscule, c'est qu'il y a deux images classiques que l'on peut projeter sur différentes expériences que l'on peut faire avec cet objet.
Et l'objet en question n'est ni l'un ni l'autre.
Il n'est ni l'un ni l'autre. Alors, ensuite, il y a une autre option, qui est de dire, bah, en fait, s'il y a une nouvelle logique, on doit développer un nouveau langage. Et donc, par exemple, au lieu de parler de onde et de corpuscule, on va pouvoir parler peut-être de ondicule.
Ou de champ.
Ou de champ. Alors, les champs, ça va être pour la conciliation, oui, avec la relativité restreinte. Mais oui, par exemple. Mais ce qui est fondamental, c'est que, voilà, en fait, il y a cette trahison des images du fait que le langage quantique est différent de notre langage classique et qu'ils ne peuvent pas être unifié. Et voilà. Et donc ce résultat-là vient de ce qu'on appelle la contextualité quantique.
Hippolyte Dourdan, vous avez rappelé tout à l'heure qu'il y a eu de très nombreuses interprétations différentes du formalisme quantique. Et il y a quelques semaines, à votre place, était assis un prix Nobel de physique, Alain Aspect, qui a eu le prix Nobel en 2022 pour avoir réalisé, dans les années 80, une expérience cruciale qui a éliminé un certain nombre d'interprétations de la mécanique quantique en montrant qu'elles étaient incompatibles avec les données de l'expérience qu'il avait recueillie.
Oui.
Et parfois, quand on dit les choses rapidement, on dit qu'il a tranché le débat entre Einstein et Bohr.
Oui.
Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il y a encore des possibilités pour certaines interprétations dites réalistes de survivre ?
C'est la deuxième option. Alors, ce qu'a montré les expériences d'Alain Aspect, c'est qu'effectivement, le point de vue d'Einstein était erroné. Après, il faut pas.
Mais point de vue sur la nature, pas sur la physique
quantique.
Tout à fait.
Quantique. Einstein, alors en fait.
Il s'est pas trompé sur la physique quantique.
Il s'est pas. Tout au contraire. Parce que c'est grâce à lui, du coup, qu'on a le phénomène d'intrication. Mmh. Et sans, en fait.
Il l'a vu. C'est lui qui l'a vu dans les équations.
Tout à fait.
Il a pensé que la nature ne pouvait pas l'accepter.
Tout à fait. En fait, grâce à Einstein, on a eu les expériences d'Alain Aspect derrière qui nous ont permis de mettre en évidence ce phénomène d'intrication. Là où, du coup, ces expériences montrent que ce qu'Einstein espérait de la nature, donc qu'elle se comporte de façon qui contredise, du coup, la théorie quantique, même s'il faisait confiance à la théorie quantique, en fait, il espérait, pas forcément contredire, mais en fait, il espérait pouvoir avoir une explication classique des phénomènes quantiques. Et ce qu'a montré Alain Aspect, c'est que ce n'est pas possible. Maintenant, ça ne veut pas dire pour autant que Bohr a raison. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a plein d'autres points de vue possibles, tout simplement. Donc, il y a des points de vue donc, plus dans la famille de Bohr qu'on qualifie souvent d'anti-réalistes, donc, qui disent qu'on ne peut pas de toute façon décrire le réel indépendamment de notre position d'observateur, de compteur. Et donc, en fait, on s'en sort parfaitement avec ces expériences. Mais il y a aussi d'autres options. Qui sont dans le camp des réalistes, donc dans le camp d'Einstein, notamment, on va dire, la plus fameuse, et qui a d'ailleurs été aussi très très importante pour tout le développement qui va conduire aux expériences finales d'Alain Aspect. C'est par exemple ce qu'on appelle la théorie de De Broglie-Bohm. Qu'est-ce que c'est que cette théorie ?
Une vieille histoire.
Une vieille histoire, mais en fait, elle part un petit peu de la même motivation qu'Einstein, c'est d'essayer de compléter la théorie quantique. Donc, on considère que les équations ne sont pas complètes, et on va essayer.
Il manque des informations.
Voilà, il manque des informations. C'est ce qu'on appelle, dans le jargon, des variables cachées. Et c'est juste de dire que, par exemple, au cours de notre expérience, on ne peut pas forcément observer la position à tout instant d'une particule, mais cette position-là, elle existe. Et donc, il y a une variable position qui n'est pas décrite par les théories et par la théorie quantique. Et donc, il faut étendre la théorie quantique pour pouvoir inclure cette description-là. Einstein voulait que ces variables suivent une logique classique. La théorie de De Broglie-Bohm, en fait, elle va compléter la théorie quantique, mais avec une variable qui se comporte de façon très bizarre aussi. C'est ce qu'on appelle la non-localité quantique. C'est le phénomène qui se cache derrière. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, même s'il y a cette variable cachée qui est intrinsèquement classique, sa façon d'évoluer va être très très bizarre, presque conspiratoire.
J'ai l'impression, Hippolyte Dourdan, que vous êtes contaminé par votre sujet de recherche. Quand je vous pose une question sur la physique quantique, vous me proposez une réponse quantique qui superpose toutes sortes de possibilités, de sorte qu'on n'a pas la réponse. En tout cas, la réponse cache des choses. Comme
c'est ça. Mais c'est la beauté des fondements quantiques, en fait. C'est qu'il y a beaucoup de questions sans réponse ou avec plusieurs réponses.
Mais est-ce que le débat sera clos un jour ?
J'aimerais bien. Ou pas, parce que, en fait, ce qui est magnifique.
Bah voilà,
dans...
j'aimerais bien ou pas. Qu'est-ce qu'on fait cette réponse ?
Non, mais ce qui est magnifique dans la recherche, en fait, c'est de pouvoir se poser des questions. C'est vraiment ce qui, je pense, motive la plupart des chercheurs. Et plus on se pose des questions et plus on va obtenir des réponses, plus ces réponses vont donner naissance à de nouvelles questions. Et c'est là tout le but du jeu. En fait, on ne veut pas avoir de réponse finale.
Hippolyte Dourdan, justement, à propos de questions qui n'ont pas de réponse, en tout cas simple, il y en a une qui, enfin, il y a un chapitre dans votre livre que j'ai trouvé fascinant sur cette chose qu'on n'enseignait pas à mon époque, mais qui fait partie maintenant des concepts importants de la physique quantique, c'est la contextualité.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Notamment le sens d'un théorème qui pour vous est fondamental.
Oui.
Qui s'appelle le théorème de Cohen-Specker. Specker, oui. On en a parlé tout à l'heure, hein, c'est le chercheur dont vous avez cité le nom tout à l'heure.
Non, c'est pas le même.
Ah, c'est pas le même ?
Tout à l'heure, c'était Speckens, c'était Robert Speckens.
Autant pour
qui
moi.
Qui est toujours vivant. Et là, c'est Ernst Specker.
Qui est mort ?
Qui est décédé il y a quelques années.
Bah, autant pour moi, c'est un chercheur New York finalement.
C'est ça, tout à fait.
Alors, la contextualité.
Oui, la contextualité. Alors, c'est un beau morceau, donc je vais essayer de prendre mon temps et de l'expliquer clairement. Mais pour nos auditeurs et nos auditrices, s'il y a quelque chose que vous devez retenir de ce résultat, vraiment une phrase très simple à retenir, c'est la phrase que j'ai déjà prononcée en fait tout à l'heure, pour répondre sur votre question sur la phrase poétique de Paul Valéry. Donc c'est cette phrase-là, c'est que la logique quantique et la logique classique ne peuvent pas être unifiées. Et donc on ne peut pas comprendre la logique quantique avec notre logique classique. Maintenant, il y a toute une histoire fabuleuse qui arrive à ce résultat. Et ce qui est très important aussi de comprendre, c'est que ce n'est pas de la philosophie. Ce n'est pas une interprétation. C'est un résultat mathématique et même géométrique, en fait. Donc, qui se montre avec les maths de la physique quantique. Et donc, en étudiant la géométrie de la physique quantique, on en arrive à ce résultat-là. Pourquoi ça s'appelle contextualité quantique ? Parce que, en fait, c'est né d'une justification, en fait. Une façon aussi d'interpréter ce résultat, c'est de justifier d'un point de vue mathématique la fameuse phrase qu'on utilise très souvent, qui est de dire que, en physique quantique, le résultat d'une mesure dépend du contexte de la mesure. C'est aussi un théorème qui va donner un vrai sens mathématique à cette phrase-là, et pas seulement interprétatif, pas seulement philosophique.
Mais ça, c'est complètement étrange, parce que d'habitude, ouais, on pense que l'opération de mesure, c'est une sténographie du réel.
Tout à fait.
On enregistre une propriété, on obtient un résultat pour la mesure, oui, mais ce résultat serait le même, ou la valeur de cette propriété serait la même si l'objet n'était pas mesuré.
Tout à fait. Et pour qu'on puisse, par exemple, essayer de se représenter cette étrangeté, il y a une petite expérience de pensée, donc c'est une analogie, hein, attention, c'est pas exactement vraiment ce qui se passe, mais pour essayer de comprendre un peu qu'est-ce que ça pourrait impliquer, vous pouvez imaginer que vous avez trois gobelets devant vous, et que vous essayez de vous intéresser au contenu du gobelet du milieu. D'accord ?
Qu'est-ce qu'il y a dans les gobelets ?
Voilà, j'allais y venir. Il peut y avoir une balle ou pas de balle. Une balle cachée. Vous savez, comme un petit peu un jeu de bonneteau, vous voulez savoir s'il y a une balle cachée sous le gobelet du milieu. Et pour essayer de mesurer, en fait, le contenu de ce gobelet, il y a deux types de mesures possibles. C'est une règle. On part du principe que c'est une règle de l'expérience de pensée. Vous êtes obligé de retourner deux gobelets en même temps. Donc, soit vous retournez celui du milieu avec le gobelet qui est à gauche, soit celui du milieu avec le gobelet qui est à droite. Dans notre...
Mais aussi bien celui qui est à gauche avec celui qui est à droite ?
Vous pouvez éventuellement faire ça, mais ce n'est pas du coup dans votre intérêt. Ce qui vous intéresse, c'est le contenu du milieu. Donc, dans notre logique classique et dans notre physique classique, en fait, on s'attend à que vous choisissiez un contexte, donc de mesurer celui du milieu avec celui de gauche ou l'autre, donc celui du milieu avec celui de droite. Rien ne devrait changer.
Ça donne la même information.
Tout à fait. Eh bien, en physique quantique, pas forcément. Il se peut que si vous retournez donc, vos gobelets gauche et milieu, donc le contenu du milieu lié à une balle, et si vous retournez celui du milieu avec celui de droite, il n'y a pas de balle.
C'est possible. Ça, vous êtes d'accord que ça rend fou ?
Ça rend fou. Ça rend fou, mais dans un autre sens, ça rend fou, mais c'est une logique différente. Et il y a un langage derrière qui permet, si on réussit à appréhender ce langage mathématique, qui permet de le justifier et de bien le comprendre. En fait, ça rend fou, encore une fois, parce qu'on essaye de l'interpréter avec notre prisme classique et nos lunettes classiques. Et la contextualité, en fait, se démontre comme cela. En fait, on part d'un scénario avec différents types de mesures possibles, et on montre que quand on essaye de comprendre ce qui se cache derrière ces mesures avec notre prisme classique, on arrive à une contradiction logique. Une vraie contradiction logique. Hein. On arrive à 1, 0 égale 1, à un paradoxe. Une façon très très belle aussi de les représenter, c'est ces fameuses figures impossibles à la Escher. Mais c'est plus qu'une analogie un peu vague. C'est vraiment une analogie structurelle. On obtient vraiment la même figure paradoxale que certaines figures de Descher ou de Penrose. Peut-être que les personnes qui nous écoutent connaissent ce fameux triangle de Penrose, donc un triangle impossible, hein, on n'arrive pas à se le représenter de façon tridimensionnelle. Mais par contre, quand vous regardez ce triangle, si vous isolez chacune de ses parties, ou vous les regardez deux par deux, un petit peu comme mes trois gobelets dont je parlais, vous prenez, vous intéressez à une des parties du triangle, vous la regardez avec son premier voisin, il n'y a rien d'anormal. Vous regardez la même partie avec l'autre voisin, rien d'anormal non plus. Et donc, quand les contextes sont locaux, il n'y a pas de paradoxe. Et quand on veut regarder cet objet dans un contexte global, là, il y a quelque chose qui émerge de paradoxal et d'absurde. Eh bien, la preuve de la contextualité quantique, c'est exactement la même forme.
Ça veut dire que si on applique la logique classique au phénomène quantique, on voit apparaître des paradoxes qui n'existent pas si on reste dans la logique quantique.
Tout à fait. Et vous venez de décrire parfaitement la contextualité. C'est exactement ce que veut dire le théorème.
Mais alors, un des pères de la contextualité, c'est donc Ernst Becker,
oui.
qui était, je crois, adolescent après la Deuxième Guerre mondiale, qui se posait la question, est-ce que Dieu peut avoir connaissance d'un monde où Hitler ne serait pas né?
Oui.
Et donc, il pose une question contrefactuelle.
Oui.
Si on suppose que Dieu connaît le monde intégralement, est-ce qu'il connaît aussi d'autres mondes possibles?
Oui.
Ou seulement le monde qui est?
Tout à fait. Et c'est ça qui est très beau avec donc ce fameux théorème de Ernst Becker. En fait, il est né d'abord donc de cette interrogation que d'Ernst Becker sur est-ce que Dieu a connaissance d'un monde où Hitler ne serait pas né. Il se pose cette question-là donc après la guerre et en fait il va développer à partir de ce questionnement un travail de logique. Il est logicien, Ernst Becker, il ne fait pas de la physique, hein. c'est un logicien. Il va développer un peu plus tard une logique sur ces énoncés qu'on dit contrefactuels. Donc, autrement dit, en fait, il se pose la question, est-ce que Dieu a la connaissance d'un monde qui ne s'est pas réalisé, mais qui aurait pu se réaliser si quelque chose d'autre avait été produit? Typiquement, c'est un peu ce que j'avais décrit avec cette expérience des gobelets. C'est, vous choisissez un gobelet, vous allez obtenir un résultat, et vous faites un raisonnement contrefactuel. Vous vous dites, ah, mais si j'avais utilisé l'autre contexte de mesure, donc l'autre paire, qu'est-ce que j'aurais obtenu? Et la logique quantique vous dit du coup que vous aurez peut-être obtenu quelque chose de différent. Et en fait, Ernst Becker, il avait cette motivation presque théologique, en fait. C'est ça qui est très beau avec ce théorème. C'est que ça naît d'un questionnement vraiment très fondamental, très philosophique, qui va l'amener sur une étude logique qui est complètement, du coup, séparée de la théologie au final, qui va aboutir plus tard sur ce fameux théorème de Ernst Becker physique. Et ce qui est très beau, c'est que, j'ai mis l'hypothèse dans le livre que, en fait, quand on lit l'autobiographie de Ernst Becker, on se rend compte qu'il était passionné de scolastique. La scolastique, qu'est-ce que c'est? C'est la tentative de concilier la philosophie d'Aristote avec les mythes bibliques. Et notamment, il est fan d'un certain mythe qui s'appelle le mythe de Jonas, qui, en fait, a un énoncé contrefactuel. Le mythe de Jonas, c'est le mythe du prophète de malheur. C'est quelque chose de très très beau. C'est donc Jonas qui va dans la cité de Ninive et qui doit annoncer. Donc Dieu lui a demandé d'annoncer que Ninive allait s'effondrer parce que il y a beaucoup de pêcheurs à l'intérieur de la ville. Jonas s'enfuit, il refuse d'émettre cet énoncé. Il est puni. Il va passer 3 jours et 3 nuits à l'intérieur d'une baleine. Vous connaissez l'histoire peut-être. Et puis finalement il se résigne et donc il entre dans Ninive. Il dit Ninive va s'effondrer dans 40 jours, quelque chose comme ça. Et du coup, ce que font les habitants de Ninive, ils se répandent, et donc Dieu accepte et ne détruit pas la ville.
Donc c'est en annonçant la catastrophe qu'on l'empêche.
Tout à fait.
C'est ce que Jean-Pierre Dupuis appelle le paradoxe de Jonas.
Tout à fait. Et en fait, il y a une très belle analogie structurelle aussi là, avec en fait donc ce questionnement de, est-ce que Dieu a connaissance des contrefactuels ou des futurs contingents? C'est on peut regarder vers le passé, on peut regarder vers le futur. Il y a une petite symétrie.
Est-ce que c'est pas des questions que chacun d'entre nous se pose quand il se demande ce qui se serait passé s'il avait pris une autre décision que celle qu'il a prise en telle ou telle occasion?
Si, il y a quelque chose de très existentiel derrière ce questionnement. C'est très poétique aussi. Il y a toutes les questionnements sur le regret, sur ou tout simplement, pas forcément négatif, hein, sur quelle aurait pu être ma vie si, à cet instant-là, j'avais fait un choix différent quand on est à la croisée de différents chemins. Et c'est ça qui est très beau derrière ce théorème-là, c'est qu'en fait, ça part de quelque chose de très romantique, de très philosophique, même un petit peu théologique même, de base. Et ça va donner naissance à un théorème qui est au cœur de l'étrangeté quantique. Bien sûr, ce théorème ne dit rien de la connaissance de Dieu, c'est complètement décorrélé, mais il y a des analogies structurelles, en fait, qui sont très très belles, et c'est assez impressionnant de voir que c'est ce type de motivation-là qui a donné naissance à un des, si ce n'est le théorème le plus fondamental de la théorie quantique.
Hippolyte Dourdan, quand on vous écoute, on entend que vous êtes un chercheur de haut niveau, et on s'étonne de ces pages dans votre livre que vous consacrez à Pinocchio. Qu'est-ce qu'il vient faire là?
Alors, j'utilise Pinocchio pour justement parler de ce type de paradoxe qu'on peut rencontrer, en fait, quand on essaie de démontrer ce théorème, comme je l'expliquais, à la fin de notre démonstration mathématique, on arrive à une contradiction logique parce qu'on a projeté notre langage classique sur les mathématiques de la physique quantique. Et donc, j'illustre le type de paradoxe. Donc, il y a ce fameux triangle de Penrose qui est un paradoxe pictural. Mais il y a aussi une espèce d'analogue dans l'histoire de la logique classique. C'est ce qu'on appelle le fameux paradoxe du menteur. Et j'en donne une version un petit peu rigolote que j'avais trouvée sur Internet, qui s'appelle le paradoxe de Pinocchio. Donc, Pinocchio dit « je suis en train de mentir ». Sauf qu'on sait que quand Pinocchio ment, son nez est censé s'allonger. Et donc, si la phrase de Pinocchio est vraie et qu'il est effectivement en train de mentir, son nez devrait s'allonger. Sauf que s'il dit la vérité, il ne devrait pas s'allonger. Et donc c'est une phrase paradoxale parce que si elle est vraie,
elle est autoréférente.
Si elle est fausse, elle est vraie. Et c'est ce type de paradoxe-là qu'on rencontre à la fin d'une tentative de démonstration de contextualité.
Mais c'est comme dire il est interdit d'interdire.
Ouais.
C'est une phrase autoréférente qui s'auto-contredit.
C'est une autoréférence contradictoire. Mmh. Mais encore une fois, je veux souligner que ça ne veut pas dire que le réel est absurde vraiment ou la physique quantique est absurde. Ça veut dire que quand on projette notre logique classique, on obtient une absurdité. Mais la théorie quantique est parfaitement cohérente et la réalité est cohérente. C'est juste qu'on va avoir des difficultés à l'appréhender, tout simplement. Mmh.
Alors, le monde où les lois quantiques se laissent voir directement nous est caché.
Oui.
Mais c'est un monde que vous comprenez bien, mm-hmm. qui est différent du monde classique.
Oui.
Est-ce que vous êtes capable, en retour, d'imaginer ce que serait notre monde si la décohérence n'avait pas lieu? Autrement dit, si le monde était intégralement quantique à toutes les échelles?
Alors, la seule solution qui vient à mon esprit, c'est qu'on ne le ressentirait pas. Et en fait, c'est un peu ce que cette interprétation des mondes multiples dit, en fait, tout simplement. Vous venez de la résumer. C'est que nous, on ne le sentirait pas, mais il se trouve qu'il faudrait accepter qu'il y aurait potentiellement des copies de nous qui vivraient les choix différents que l'on n'a pas fait. Mais ça, c'est presque de l'ordre de la métaphysique, parce qu'il n'y aurait pas de façon de le démontrer par l'expérience.
Vous rappelez une phrase de Bernard d'Espagna, qui a écrit un livre sur le réel voilé.
Oui.
Le réel est voilé, disait-il. Ça veut dire quoi? Est-ce que vous le comprenez dans le même sens que lui? Ou est-ce que vous avez une sorte de variation dans la façon de définir cette expression?
Je pense qu'il y a une légère variation, mais qui ne doit pas vraiment s'éloigner de ce que Bernard d'Espagna avait en tête. Le réel est voilé dans le sens où il y a un grand nombre d'interprétations de la physique quantique qui vont dire que via ce résultat de contextualité, en fait, il va toujours avoir des choses cachées auxquelles on n'aura pas accès. Donc je retourne sur, alors pas Speaker, mais Rob Spickens, le premier, qui a aussi beaucoup travaillé sur la contextualité, qui a généralisé ce fameux théorème de Cohen-Speaker, et en fait qui a montré donc ce qu'on appelle dans le jargon la contextualité généralisée, mais en gros qui a montré que la physique quantique va violer un principe philosophique fondamental qui s'appelle le principe des indiscernables de Leibniz. Qu'est-ce que dit ce principe? Il dit qu'une identité empirique implique une identité ontologique. Donc si vous avez un objet et que vous êtes incapable de le différencier d'un objet que vous connaissez, le principe dit que ces deux objets doivent être la même chose fondamentalement, d'un point de vue existentiel. Ou autrement encore, si vous faites une expérience et que l'expérience que vous faites, en fait, vous n'avez aucun moyen de montrer qu'elle est différente d'une autre expérience que vous connaissez bien, ben en fait, ces deux expériences montrent la même chose. Et la quantique, du coup, la théorie quantique, va violer ce principe. Et c'est ce qu'on appelle du coup la contextualité généralisée. Et c'est ce que j'entends par réel voilé dans le livre, en fait. Il y a vraiment, en fait, une interprétation possible qui dit que il y a un voile sur la réalité, il y aura des choses qui seront toujours fondamentalement cachées et auxquelles on ne pourra pas accéder.
Hippolyte Dourdan, on approche de la fin de cette émission, j'ai encore deux questions. La première, c'est, il faudra répondre brièvement, une question à propos de l'ordinateur quantique
oui.
dont vous parlez dans le livre. Est-ce que vous pensez qu'un jour, un jour prochain, on pourra disposer de tels ordinateurs individuellement, des sortes d'ordinateurs quantiques personnels, comme on a aujourd'hui des PC ou des Mac à la maison?
Non. L'ordinateur quantique, s'il est fait un jour, il sera utilisé par des grandes entreprises, par des gouvernements, pour des problèmes très précis, d'optimisation principalement, pour des problèmes aussi de sécurité, sans doute, s'il est fait un jour. Et donc, pour l'instant, il y a Dans le travail théorique, il y a aucun indice qui nous montre qu'il pourrait être utile d'un point de vue individuel dans notre vie de citoyen quotidien.
Et ma dernière question porte sur la vulgarisation de la physique quantique.
Oui.
Si on se demande si elle est efficace, la réponse qu'on peut donner à cette question, c'est oui plus non. Donc c'est une réponse quantique. C'est efficace parce que tout le monde connaît le mot quantique. Et c'est pas vraiment efficace parce que ce qu'on met derrière ce mot demeure très très flou, voire complètement inconnu. Et on vous avez l'air d'être, à la fin du livre, agacé par le fait qu'il y a toutes sortes de choses qu'on qualifie quantiques alors qu'elles ne le sont pas. Il y a des crèmes quantiques, il y a de l'ostéopathie quantique, il y a de la psychanalyse quantique, il y a... Bon bref, qu'est-ce qu'il faut faire pour changer cette situation?
Il faut lire mon livre.
Je veux une réponse un peu plus élaborée.
Mais en fait, du coup, c'est le but du livre, en fait. C'est d'essayer de donner des éléments de langage pédagogique qui vont permettre d'essayer de la démystifier, parce que je pense qu'il y a un vrai travail de démystification à faire. Et d'essayer d'éviter, en fait, de voir la physique quantique comme quelque chose d'occulte. Encore une fois, comme on vient de le rappeler, elle a quelque chose d'étrange,
mais il faut accepter. Comment est-ce qu'on démystifie quelque chose qu'on présente comme fascinant?
Eh ben, c'est tout le challenge de la vulgarisation de la physique quantique. C'est ce que, encore une fois aussi, j'essaye de faire dans le livre. Donc, dans le livre, mon parti pris, c'est d'essayer de partir, en fait, de cette fascination, de ces phrases très étranges, et d'essayer de les détricoter, de les déconstruire, et de les expliquer de la façon la plus simple possible. Mais encore une fois, c'est un challenge. Mais je pense qu'une façon d'y arriver, c'est d'essayer de s'interroger de plus en plus à cette notion d'information. En fait, je pense que c'est la clé.
C'est ce que vous avez fait. Vous avez fait la promotion de votre livre, mais je l'ai fait moi aussi. Hein. Je recommande la lecture de votre livre, Hippolyte Dourdan, qui s'intitule « De l'autre côté du miroir quantique » avec une préface d'Alexis Greenbaum, livre qui vient de paraître aux éditions Duno. Merci d'être venu jusqu'à
nous.
C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Anthony Thomasson et à la réalisation Luc Jean Reynaud.